Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin.
C'est une jeune femme pétillante qui est dans le studio face à moi aujourd'hui. Elle est l'autrice, l'auteure d'un roman palpitant. Et elle est l'invitée de cette émission Portrait. Elle va nous raconter comment elle a écrit ce livre, avec emphase, avec cet enthousiasme qui l'habite. Il commence par cette phrase de Victor Hugo. « Les morts, ce sont des cœurs qui t'aimaient autrefois. » Bérénice Pichat est l'auteur de ce livre intitulé « Les promesses des fleurs ». Bérénice, bonjour.
Bonjour Claire-Lise, bonjour les auditeurs.
Merci d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui dans Portrait. Votre livre est sorti en librairie. Nous l'avons trouvé à la Galerne du Havre, cette belle librairie que nous aimons tant. Et il est disponible aussi dans d'autres librairies. On peut aussi vous contacter pour avoir cet ouvrage. C'est un roman que vous avez écrit. Il y a 3 tomes, il n'y en a qu'un qui est sorti pour l'instant, et vous avez démarré il y a 5 ans.
C'est ça, j'ai commencé cette aventure d'une saga historique il y a 5 ans. Et ça m'a pris 4 ans et demi pour réaliser les 3 tomes.
Alors, on a préparé cette émission évidemment ensemble, hein, vous le savez, vous qui nous écoutez, on prend beaucoup de temps pour cette préparation. Bérénice Pichat a choisi des objets, des photos, des senteurs et des musiques, comme tous les invités de cette émission. C'est vraiment une source intarissable d'informations que vous avez. Et il se trouve que, alors vous allez voir, vous qui nous écoutez, même si vous n'avez pas encore lu ce livre, ce qui est bien possible encore, parce que pour le moment il vient de sortir, vous allez voir que vous allez avoir envie de le lire parce que Bérénice en parle avec tellement d'enthousiasme que c'est communicatif. Et puis, alors moi je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, mais j'ai encore eu beaucoup plus de plaisir lorsqu'elle m'a montré ce livre de photos, qui est une des premières photos que vous choisissez pour l'émission, puisque dans ce livre-là, les photos sont en quelque sorte la base de vos histoires, de votre histoire, de l'histoire de ce livre.
Alors c'est un livre qui a été également publié par les éditions du Kera, qui sont mes éditeurs, et qui contient une histoire de Saint-Véran, le village où se passent les promesses des fleurs, et qui contient donc une version faite par un ancien habitant de Saint-Véran, qui est mort depuis des années maintenant, mais qui avait raconté sa vie, son enfance, à l'époque. Et les éditions du Kera ont édité et réédité l'histoire racontée par cet homme. Et ils l'ont agrémenté de nombreuses photographies en noir et blanc qui ont été prises dans les années 1915-1917 par Hippolyte Müller, qui est exposé au musée dauphinois. Et en fait, la première fois où je me suis rendue à Saint-Véran, donc ça va faire 6 ans là, cette année, j'ai découvert ce village formidable. Et quand j'ai acheté ce livre, qui était en vente dans la petite presse librairie du village, j'ai réalisé à quel point ce village était authentique. C'est-à-dire que ces photos, on s'entend, mais le village n'a pas changé, mais vraiment pas du tout. Et j'ai trouvé ça extraordinaire.
Alors sur la photo que vous avez choisie, on voit un homme et une femme devant un lavoir, et ce sont eux qui ont inspiré les personnages de...
Alors de Étienne et de Marie, qui sont deux des personnages de mon histoire. C'est une saga historique qui reprend en fait la vie de plusieurs habitants de ce petit village dans les années 1920, au tournant de l'après-Première Guerre mondiale, qui est une période qui fait un peu écho à la nôtre dans tout ce que ça peut apporter de changements, de modifications sur la vie quotidienne. Et en fait, ces photos, dont celle du lavoir, m'ont murmuré à l'oreille les histoires des personnages qu'elle représente.
C'est-à-dire que, en fait, en feuilletant ce bouquin-là, ce recueil de photographies en noir et blanc pour la plupart, vous vous êtes dit, tiens, un tel pourrait incarner tel ou tel personnage, et je la vois en train de vivre et de dire ceci et de faire cela.
Oui, c'est exactement ça. En fait, j'écris depuis des années, dans le cadre d'ateliers d'écriture. Et
on fait un petit coucou à France Germain.
Voilà, France, notre maître d'écriture à tous. Et en fait, c'est vrai que ce travail de faire parler des personnages, des photos, des images, des objets, c'est quelque chose avec lequel on travaille souvent, c'est notre matériau de création. J'ai écrit beaucoup de nouvelles par ce biais-là, Mais là, avec le livre donc, des éditions du Kera, mon expérience de visite à Saint-Véran et mon travail d'écriture, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus ample que ce que j'avais pu faire jusqu'alors. Et chacune des photos de ce livre, qui ne contient pas que des photos, mais aussi beaucoup de narrations sur la vie à l'époque, m'a donné envie d'en faire plus. Et donc cette photo, elle est assez emblématique. C'est le genre de photo que l'on voit à Saint-Véran quand on se promène dans le village, parce qu'elles sont reproduites sur des grands panneaux qui sont quasiment en taille réelle.
Comme ce qu'on avait vu un peu à la plage à un moment, Havre.
Exactement, c'est des grands formats. Donc on se promène dans le village et sur les bords des maisons sont accrochés ces grands formats en noir et blanc. Et en fait, on se rend compte à quel point le village est le même. Et on a l'impression qu'on pourrait quasiment croiser ces gens à l'heure actuelle.
Lorsque j'ai introduit cette émission par mon petit paragraphe pour vous présenter, j'ai dit « elle est l'autrice, non l'auteur ». Parce que lorsque nous avons préparé l'émission, vous m'avez dit « non, autrice, c'est un mot que j'aime pas ».
Non, j'aime pas ce mot. Je trouve qu'il est fabriqué, il est trop récent. Et j'aime bien les choses anciennes.
Est-ce que c'est ce que vous enseignez à vos élèves, vous qui êtes institutrice ? Enfin, je prends ce mot qui est un peu désuet, parce que c'est professeur des écoles aujourd'hui. Mais par rapport à tout votre univers, je me dis, institutrice, c'est bien, ça vous plaît, ce mot ?
Alors, je pense que j'ai une façon d'enseigner qui est résolument moderne.
Mais oui, je n'en doute pas une seconde.
Mais effectivement, en préparant cette émission, ça m'a interrogée sur mon métier d'enseignante. Et je me suis rendu compte que enseigner, finalement, c'est raconter des histoires. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce métier et que j'ai toujours envie, après 22 ans d'enseignement, je passe mon temps à raconter des histoires ou à faire découvrir des histoires à mes élèves, que ce soit en grammaire, l'histoire de l'accent circonflexe, ou que ce soit en histoire des arts, l'histoire d'un tableau.
C'est quoi l'histoire de l'accent circonflexe ?
C'est un petit peu long à raconter sur l'émission, mais bref, il y a une vraie histoire de l'accent circonflexe.
Bon, et donc on ira chercher sur Internet.
Je commence l'année comme ça et mes élèves sont suspendus à ce que je raconte et après c'est gagné.
Et oui, vous savez les accrocher là où ils ont envie d'être, là où ça les fait rêver.
Et le but, c'est de former leur esprit à comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est comprendre le sens du monde et les histoires que ça raconte autour d'eux. Et le but, c'est qu'ils en deviennent des acteurs de leur histoire.
Voilà. Et bien justement, la deuxième photo que vous avez choisie, alors vous avez eu beaucoup de mal à choisir, hein, parce que Dieu sait s'il y en a. On va revenir au livre, ne vous inquiétez pas. C'est cette photo de vous lorsque vous étiez en classe de CM2 avec Madame Lucas à la Maillerée.
CE2,
pardon, à la Maillerée, donc cette école du Havre, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du Havre qui nous écoutent, donc il faut qu'on resitue à chaque fois. Vous êtes ici au premier rang, et cette maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ?
Alors, Madame Lucas, c'est une maîtresse que j'ai gardée 2 ans, je l'ai eue en CE1 et en CE2, et elle m'a profondément marquée. Il s'avère qu'elle avait écrit un livre pour enfants, qu'elle nous a fait acheter et qu'on a étudié dans l'année, mais sans savoir que c'était elle l'auteur de ce livre. Et le dernier jour de mon CE2, elle me l'a dédicacé. Et d'un seul coup, j'ai compris qu'elle était à la fois maîtresse et à la fois écrivain. Et ça m'a rendue folle de joie. J'ai découvert un véritable univers qu'on pouvait écrire. Et je crois que c'est depuis cette année avec Madame Lucas que j'ai eu envie d'écrire. Donc déjà, quand je l'avais comme maîtresse, j'ai passé mon temps à écrire des petits livres façon... Sœur Brontë. J'étais allée visiter le musée des Sœurs Brontë en Angleterre et elles avaient écrit des tas de petits livres minuscules. Et avec ma sœur, on voulait faire vraiment la même chose, écrire. Donc on passait notre temps à fabriquer des petits ouvrages, à les taper à la machine, à les écrire pour de
vrai. Et du coup, vous êtes devenue un site dans la même école.
Et voilà, là je suis devenue enseignante des années après. Et cette année, au miracle de la mutation, j'ai demandé à retourner à la Maillerée et j'ai eu mon premier vœu. Et donc je suis enseignante dans l'école où j'ai passé tant d'années.
Appris à lire.
Et là où j'ai appris à lire et là où j'ai eu envie d'écrire. Donc la boucle est bouclée et mon livre est paru cette année. Donc c'est formidable.
Alors on va écouter un premier morceau de musique, Bérénice Picha, que vous avez choisi. Il s'agit de musique baroque. Après on va revenir, juste après on va revenir au livre, parce que quand même hein, c'est un sacré morceau dans cette émission-là. Pourquoi vous avez choisi cette musique ?
Alors, j'ai une passion pour les musiques un peu anciennes. Alors, ça peut faire désuet, mais en même temps, elles reflètent toute une époque, toute une ambiance. J'ai l'impression que quand on entend les petites clochettes de cette folia, on se retrouve plongé dans une période qui n'existe plus et qui pourtant est toujours là.
Et c'est Jordi Savall qui nous régale à l'instant. Thank you. C'est Bérénice Pichat qui est notre invitée aujourd'hui dans Portrait. Bérénice Pichat est l'auteur d'un roman et elle est en train de nous en parler. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir dévoiler aux auditeurs pour leur donner envie de le lire, mais sans tout raconter?
Alors, ce roman se passe dans les années 1920, dans l'après-Première Guerre mondiale. Il se situe à Saint-Véran, qui est la plus haute commune d'Europe. Elle est à 2400 mètres. C'est un village dans lequel on se promène dans le temps. C'est vraiment l'effet qu'il m'a fait quand j'y suis allée pour la première fois, il y a bientôt 6 ans. J'ai eu l'impression de voyager dans le temps, de découvrir des maisons, des lieux, des ambiances, exactement comme si on était il y a 100 ans, peut-être même plus. C'est un village qui est très connu, en fait. À chaque fois que je parle de Saint-Véran aux gens, ils y sont allés, ou
oui,
ils vont y aller.
Oui, moi je connaissais aussi, voilà. Mais je ne suis jamais allée.
Mais j'espère que lire mon livre donne envie d'aller voir en vrai.
Ah mais vraiment, et voir les village, photos là, ouais. C'est superbe quoi, parce que justement, on a envie de voir cette corrélation qu'il y a avec tout ce que vous racontez.
Ouais. Donc en fait, moi je ne skie pas, donc toute ma famille est sur les pistes, et pendant la semaine qu'on passe là-bas, je passe mon temps à me balader dans le village, à discuter avec toutes les personnes âgées, à visiter les maisons et à me renseigner sur la vie telle qu'elle se
fait. Donc c'est comme
là-bas.
Ça qu'on écrit, ouais, un roman.
Oui.
C'est en se renseignant sur place. Est-ce que vous faites une sorte de storyboard?
Pas du tout.
Des personnages avec leur caractère, leur
Alors,
physique,
oui, c'est ça.
Leur famille.
Je construis très bien mes personnages, mais après c'est eux qui décident de ce qui va leur arriver.
Mais non.
Si.
Comment vous faites?
J'écris au fil de la plume. Et en fait, mes personnages, selon leur caractère, selon leurs aspirations, vont choisir leur destin. Ils sont tous en train de discuter dans ma tête en même temps. Il y a beaucoup de monde là-haut. Et suivant ce qui va leur arriver en termes de destin, il peut leur arriver, je ne sais pas moi, une avalanche, une maladie, enfin des choses qui vont leur tomber dessus. Ils ne vont pas réagir de la même façon selon leur caractère. En fait, mes personnages ont leurs propres options. Et je ne sais pas du tout ce qui va leur arriver tant que je ne l'ai pas écrit.
Ah ouais. Ah oui, alors ça par contre, ça me renverse.
Ouais,
j'imaginais pas que ça pouvait être comme
ça. Moi j'écris comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire la fin et qui savent exactement comment ça va se passer. Moi pas du tout. Mes personnages sont très libres en fait. Ils ont une structure psychique complexe qui leur permet de réagir avec leur propre motivation face aux situations que je leur propose moi, auteur.
Bérénice Pichat, comment est-ce qu'on fait pour partager son temps entre l'enseignement, l'écriture, sa famille, 3 enfants, une grande maison, un mari qui a beaucoup de travail lui aussi? Donc vous avez 3 enfants qui ont 10, 14 et 16 ans, donc ils sont autonomes mais quand même pas complètement.
Alors j'ai beaucoup de chance. J'ai des enfants qui sont très sympas, qui ont fait beaucoup d'activités.
Il paraît que les enfants sont le reflet de leurs parents.
Ah bah, merci. Ils ont eu beaucoup d'activités au conservatoire pendant de nombreuses années. Et vous savez ce que c'est, quand on accompagne son enfant au conservatoire, il faut attendre 1h30 dans le couloir.
Oui, je me souviens très bien.
Voilà, et ben, donc pendant 1h30, 3 ou 4 fois par semaine, j'écrivais.
Et parce qu'on n'a pas le temps d'aller faire des courses
non,
entre deux.
Non, on n'a le temps de rien. Donc moi, je me promenais toujours avec mes petits carnets d'écriture. D'ailleurs, j'en ai apporté un aujourd'hui. Et j'écris au crayon à papier dans des petits carnets lignés. Et je sortais mon carnet, je sortais ma trame. Je sortais
c'est votre deuxième objet,
mon
ça.
Mon dictionnaire des synonymes.
Votre premier, oui, c'est ça, votre ouais. deuxième objet. Le premier, c'était le livre. Et le deuxième, c'est ce carnet rempli d'écriture au crayon à papier. On voit que ça a été gommé à droite à gauche, où vous avez appuyé davantage lorsque vous avez réécrit par-dessus. Une belle écriture bien régulière, mais pas une écriture de maîtresse. Je trouve.
Oui, pas du tout, pas du tout. C'est pas académique comme écriture.
C'est ça. Mais on voit qu'il y a une vivacité.
J'écris très vite.
C'est ça.
J'écris très vite. Ça stresse tout le monde aux ateliers d'écriture parce que mon crayon fait du bruit sur le papier quand j'écris et j'écris très vite. Donc oui, c'est une de mes amies d'écriture qui m'a dit que j'avais un petit crayon magique. Effectivement, quand j'écris, j'ai une espèce de, je sais pas, d'inspiration, j'en sais rien, mais ça vient comme ça. Et j'écris.
Alors, comment vous avez trouvé votre style d'écriture, de narration? Comment ça se trouve, un style? Est-ce que ça se cherche ou est-ce que c'est quelque chose qui vous vient de plus haut? Je ne sais pas.
Alors, bon, ça fait longtemps que j'écris. J'ai aussi beaucoup lu. Et il y a certains auteurs dont la plume m'a marqué plus que
Bien
d'autres.
Ça.
Voilà. Donc, j'ai aussi peut-être ces références-là. Alors après, Je m'inspire sans imiter, mais j'admire Philippe Claudel, j'admire Pierre Lemaître, j'admire Anne-Marie Gara, et tous sont des auteurs qui peut-être ont nourri ma façon de rédiger.
Cette phrase de Victor Hugo que j'ai citée au début dans l'introduction, que je vais répéter, « Les morts, ce sont des cœurs qui t'aimaient autrefois », de Victor Hugo, pourquoi l'avoir choisi ? Ça a du sens.
Oui, beaucoup. À Saint-Véran, le cimetière qui entoure la petite église est emblématique. Et sur chaque tombe du cimetière, il y a un petit cœur émaillé accroché à la croix. Et sur ce petit cœur émaillé, on retrouve le prénom, un prénom ancien souvent, un nom de famille. Alors, il y a peu de familles à Saint-Véran, donc les noms de famille reviennent régulièrement. Et puis des dates et une petite phrase épitaphe. Et en fait, tous ces cœurs blancs et bleus qui sont émaillés et qui jalonnent le cimetière sont terriblement émouvants. Et quand je me promène à Saint-Véran, je ne manque pas d'aller visiter le cimetière. Alors souvent, c'est sous la neige. Donc en fait, on ne voit plus les tombes, il n'y a que les cœurs qui dépassent des couches de neige. Et on a l'impression qu'ils sont tous là, en fait, ces anciens habitants de Saint-Véran, qui continuent à être là à travers ces cœurs. Et avoir leur présence comme ça... accroché aussi au mur de l'église sur la façade. Les anciennes tombes ont été démontées, mais le cœur est resté, il a été accroché sur la façade, donc il y a des multitudes de cœurs. Je trouve que c'est merveilleux.
Vous écrivez parfois des expressions campagnardes, comme « il avait tiré son épingle du jeu en mariant la Paulette, qui lui avait donné 6 enfants ». Alors, ça, c'est un style particulier quand même.
Oui, vous trouvez ?
Mais oui, moi je trouve que ça sort de l'ordinaire. Enfin, voilà, c'est une expression que vous avez entendue là-bas, que vous avez lue quelque part, que vous avez inventée.
En fait, comme c'est mes personnages qui
on est au tout début
agissent,
du livre, là,
hein. Ouais, qui agissent dans ma tête, j'ai envie aussi de les faire parler avec leur façon de parler. Donc oui, régulièrement, j'espère que les gens peuvent avoir l'impression de les entendre parler, tous ces gens, à travers mon écriture.
L'histoire a lieu juste après la Première Guerre mondiale. Et alors, pourquoi avoir choisi cette période ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait 70 hommes qui ont péri à la guerre, dans les hommes de Saint-Véran ?
Alors, les années 20, c'est une période très particulière parce que donc, le statut des femmes a énormément évolué pendant la Première Guerre mondiale. Ça, je ne l'apprends à personne. Mais du coup, c'est un terreau formidable pour décrire des personnages qui sont en émergence. Donc on a toutes ces femmes qui, d'un seul coup, ont été obligées de faire tourner la ferme seules, de trouver des ressources seules, et qui devront, pour certaines, continuer puisque leur mari n'est pas revenu de la guerre. Il y a aussi tous ces hommes qui reviennent avec un traumatisme certain du champ de bataille. Il y a ces enfants qui ont grandi en perdant autour d'eux, enfin dans une atmosphère de deuil permanente, et qui devront continuer à vivre avec ça. Et puis, il y a aussi tous les progrès que chaque guerre engendre. Là, en l'occurrence, la Première Guerre mondiale a permis d'énormes progrès techniques. Et un des premiers dont je m'empare pour mon livre, c'est l'arrivée de l'électricité. Et dans ces campagnes très reculées, puisque Saint-Véran, c'est quand même la plus haute commune d'Europe, on n'y va pas comme ça. Les routes sont relativement récentes pour y aller. Il faut imaginer qu'ils étaient coupés du monde pendant 6 à 7 mois, tellement la neige était importante. L'électricité... Et tout ce que ça va engendrer en termes de progrès, c'est mirobolant. Donc j'ai voulu parler de tout ça.
Sans transition, on va passer à ce deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Bérénice Picha. Il s'agit de Sting. Alors là, on fait un grand écart. Et encore, pas tant que ça. Parce que le morceau que vous avez choisi, c'est Roussian, qui est sur une musique de Prokofiev.
Oui, c'est ça. J'admire en fait tous ces auteurs-compositeurs qui ont réussi à faire ce lien entre une musique ancienne et une adaptation contemporaine avec des paroles. Pour le coup, Sting, ça parlait de la guerre froide, donc ça n'avait rien à voir avec Prokofiev, tout en respectant le côté russe de l'origine de cette musique et la beauté de la chose.
Et juste après, on part en voyage. There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common C'est Bérénice Pichat qui est notre invitée aujourd'hui dans Portrait. Bérénice est l'auteur d'un roman palpitant qui s'intitule
Les promesses des fleurs et le tome 1, Ceux qui vivent encore.
Et il va y en avoir deux autres.
C'est ça, tout est écrit.
Qui s'intitule ?
Alors, qui s'intitule pour le tome 2, La lignée des voleurs de feu, en référence à Prométhée. Et pour le tome 3, Étant donné le vent contraire, qui est une phrase tirée d'un livre d'Anne-Marie Gara.
Nous parlions de voyage, parce que dans la famille, vous êtes des globe-trotteurs.
On s'y efforce.
Vous partez tous les cinq. Et comme tout le monde s'entend super bien, même avec des ados, parce que c'est quand même une question que je vous ai posée lors de la préparation de l'émission, en me disant, alors, deux garçons de 14 et 16 ans, votre petite dernière de 10 ans, voilà, c'est fluide. Mais des garçons, eh ben non, ça se passe super bien. Ils sont très heureux de venir avec vous en voyage.
Oui, ils sont très demandeurs de ça, en fait. Si on ne fait pas deux musées par jour, ils s'ennuient. On les a habitués depuis toujours à ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que nos vacances, c'est toujours un tiers détente, un tiers culture et un tiers nourriture.
Comme quoi, c'est possible d'avoir des ados heureux, épanouis, contents d'être avec leurs parents, qui vivent leur vie quand même, j'imagine, parce que vous êtes des parents très ouverts, et voilà, mais qui savent poser un cadre.
Ben, c'est à espérer, oui. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour l'instant.
Vous avez choisi des senteurs, Bérénice Pichat. D'abord, c'est celle du Earl Grey.
Oui, c'est mon thé préféré que je prends avec du lait à l'anglaise. J'ai vécu en Angleterre et c'est vrai que depuis, le Earl Grey tient une place toute particulière dans mon cœur et j'en bois des litres et des litres quand j'écris.
Et donc, à l'anglaise, parce que ?
Ben, parce qu'en fait, j'habitais à Londres et j'ai pris l'habitude de prendre mon thé comme ça, avec le lait.
Make ça, first. Vous ne l'avez pas dit lors de la préparation de l'émission. Hein. Vous avez vécu à Londres longtemps ?
Alors, j'ai vécu deux étés à Londres. J'étais jeune fille au pair.
Voilà. Et on apprend beaucoup quand on est au pair.
Ah ben, extrêmement. C'était une famille américaine. Ils m'ont emmenée aux États-Unis, du coup. J'étais à New York pendant un mois sur les deux où je m'occupais de leurs enfants.
Et les enfants étaient sympas ou pas ?
C'était des tout petits enfants de 1 an et 2 ans, et de 2 ans et 3 ans l'année d'après, donc hyper facile.
Et la deuxième senteur que vous avez choisie, c'est le pain d'épices, la cannelle, qui est en référence à ses voyages.
Oui, toutes ces épices, à chaque fois, c'est vraiment ce qu'on aime trouver dans la nourriture. Et c'est vrai que le côté épicé, on le retrouve aussi bien en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Maroc, qu'en Grèce, où on était encore cet été.
J'aimerais qu'on revienne encore, parce qu'il nous reste très peu de temps, Bérénice Pichat, à ce livre que vous avez écrit, enfin à ce premier tome. Comment s'est fait le choix de la couverture, qui représente donc un dessin du village avec des fleurs ?
Alors ça, c'est la partie qui était réservée à mes éditeurs. C'est-à-dire que la maison d'édition, les éditions du Kera, qui ont accepté de publier mon livre, ont une collection de livres, aussi bien des documentaires que des témoignages, que des livres de photos. Pierre Putla, mon éditeur, est photographe. Et du coup, mon livre devait s'inscrire dans la ligne éditoriale de leur publication. Donc, ça nécessitait pour ça une certaine police d'écriture, une certaine épaisseur dans la couverture, le fait qu'il y ait un rabat. Voilà. Et donc,
c'est un bel objet. Hein.
On a fait plusieurs essais et... Gaëlle Putla, mon éditrice, a détouré des fleurs sur un chromo ancien pour rappeler les années 20. Et après, on était parti sur le choix entre un dessin ou une photo. Et c'est vrai que moi, j'aurais pourquoi pas apprécié d'avoir une photo, mais elle me dit que c'est toujours délicat d'utiliser le visage de quelqu'un. Parce que ces familles dont je parle à Saint-Véran, alors j'ai modifié les noms de famille évidemment, mais dans mon livre, on peut retrouver tout à fait des familles connu, et utiliser une photo, c'est imposer un peu trop un personnage par rapport à quelqu'un d'existant.
Et on retrouve aussi, on découvre plutôt, enfin moi j'ai découvert des choses dans votre livre, par exemple j'ignorais que les cordonniers passaient de maison en maison et travaillaient chez les gens quelques jours en échange de nourriture et d'un salaire, et je savais pas du tout ça, je savais que les rémouleurs pouvaient passer de maison en maison pour affûter les couteaux, mais...
À Saint-Véran on est sur un contexte particulier, c'était un village coupé du reste du monde. Donc, toute l'économie se faisait d'une façon différente, de même que les maisons étaient construites de façon très adaptée, afin que le blé puisse y mûrir, que tout puisse se faire en accord avec le climat et la façon dont le lieu était placé, versant sud. Enfin, voilà.
Bérénice Pichat, j'ai une dernière question. La dernière phrase de votre livre, c'est « Si loin des hommes, si près de Dieu ». C'est la dernière phrase, enfin c'est les derniers mots plutôt. C'est pas la dernière, j'ai pris vraiment la dernière ligne. Vous êtes croyante ?
Alors moi non, mais je sais que la religion, dans ces contrées difficiles où la mort était très présente et où il fallait vraiment se raccrocher à quelque chose, était extrêmement importante et était une donnée fondamentale pour les gens de là-bas. Voilà, donc on dit que Saint-Véran, c'est le dernier village où on mange le pain de Dieu, parce que c'est le plus haut. Il n'y a pas de village plus haut, donc plus près de Dieu.
Lorsque nous avons préparé cette émission, j'ai eu une idée que je voulais vous soumettre en direct là. C'est que votre grand-mère a 100 ans.
Elle va avoir 100 ans après-demain.
Et on pourrait peut-être lui dédier cette émission.
Ah, c'est une très bonne idée. Donc dédions l'émission à Monique Pichat, ma grand-mère. Et je lui ai offert mon livre.
Eh bien, écoutez, super. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui dans Portrait.
Merci.
Et puis, vous reviendrez nous parler des deux autres...
Avec plaisir.
Super. C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances are, 'cause I wear a silly grin. The moment you come into view, chances are you think that I'm in.